Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je souhaitais remercier Équateur d'être le sponsor du moment d'Histoire de Succès. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'ils font fonctionner votre frigo, vos lumières, votre chauffage en électricité et gaz renouvelable. C'est possible en quelques clics pour changer d'opérateur et basculer du côté vert de l'énergie. Plusieurs membres de l'équipe d'Équateur me suivent dans mes aventures depuis des années et quand ils m'ont proposé de monter une OP ensemble, j'ai demandé à Marine, qui m'a contacté, de me raconter rapidement l'histoire de Julien, son boss. Et effectivement, à mes yeux, son histoire mérite d'être racontée. Et comme en plus, ils m'ont proposé de sponsoriser le podcast, que demander de plus ? J'aime tellement allier l'utile à l'agréable. Merci donc à Équateur de me permettre de financer mon activité. Merci pour leur confiance. Et si vous souhaitez découvrir Équateur, rendez-vous sur équateur.com. Ça s'écrit EKWATEUR.com et vous pouvez utiliser le code promo FAB, FAB pour avoir 150 kW offerts, c'est-à-dire un an de machine à laver offert, rien que pour vous, mes chères auditrices et auditeurs. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Julien Tchernia, qui est donc président et cofondateur d'Équateur, fournisseur d'énergie renouvelable qu'il a co-créé en 2015. Il me raconte son enfance, sa prépa maths, ses études d'ingénieur et comment son élan d'artiste a été étouffé par une lettre terrible envoyée par son père. Et puis comment il est petit à petit passé de son métier d'ingé, qui ne le passionnait pas vraiment, à celui de business developer où il a excellé. Tellement excellé qu'il a très très bien gagné sa vie, en mode golden boy, vous entendrez d'ailleurs son histoire d'amour passionnelle avec l'Italie. Et puis un jour, bam, la crise de sens. À quoi bon les euros qui coulent à flot si c'est pour n'avoir aucun impact sur le monde ? Lui vient alors l'idée de créer une boîte dans l'énergie renouvelable. Une idée qui mettra d'ailleurs une bonne dizaine d'années à voir le jour, jusqu'au moment où son associé et lui repartiront de zéro pour monter cette entreprise dans une chambre de bonne. 6 ans plus tard, Équateur a 300 000 compteurs en France et va tenter d'entrer en bourse. On discute aussi avec Julien de son rôle de père, qui lui tient vraiment à cœur, de la façon dont il gère son job de patron d'une boîte de 100 salariés avec sa vie de papa accompli. Vous entendrez, cette interview est très riche et je remercie Julien pour la confiance et les anecdotes qu'il n'avait jamais racontées auparavant dans un micro. Bonne écoute à vous et je vous laisse en compagnie de Julien. Salut, on est avec Julien Tchernia.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci.
Alors Julien, avant d'aller plus loin, la question que tout le monde va se poser, est-ce que tu es related à Pierre Tchernia ou pas ? Tu vois, parce que comme ça au moins c'est fait.
Tiens, c'est une question qu'on ne m'a plus posée depuis longtemps.
Sans déconner.
Ah ça c'est marrant. Okay. Donc réponse, oui, c'est mon grand-oncle, c'est okay. Donc le petit frère de mon grand-père. Et c'est une question qu'on me posait tout le temps jusqu'à ce que je quitte France puis Belgique en 2004. Et quand je suis revenu, plus personne ne me l'a jamais posé. Et dans mes équipes aujourd'hui, personne ne sait que c'est
personne
un nom connu.
Et
donc c'est l'éphémérisme, je ne sais pas quel est le mot, de la célébrité alors qu'il était personnalité préférée des Français, etc.
Ouais.
etc. Et effectivement, toute ma jeunesse, ça m'a suivi.
Oui, j'imagine.
Est-ce que c'est de la famille ? Ouais.
Et c'est pour ça, moi, c'est une des premières questions que j'ai posées à tes équipes. Hein. C'était OK, parce que forcément, ça va colorer d'une manière ou d'une autre ton histoire si jamais c'était le petit-fils. Enfin, tu vois, je me suis dit, il y a peut-être...
Petit-neveu.
Julien, aujourd'hui, tu es le président de cette boîte qui s'appelle Équateur.
Oui.
Et alors, dis-moi si je me trompe, mais en gros, vous fournissez de l'énergie verte.
C'est ça. On vient alimenter en énergie verte les frigos, les chauffages, enfin, toutes les maisons des particuliers. que ce soit avec de l'électricité, du gaz, du bois. Et on a aujourd'hui 300 000 compteurs qui se fournissent chez nous. Donc, on est très, très fiers parce que c'est une super croissance en 5 ans. C'est beaucoup de travail et beaucoup de plaisir.
On va en reparler.
Bien sûr.
Je voulais te remercier aussi parce que Équateur sponsorise cet épisode. Et je suis, en fait, comme d'habitude, je fais que des interviews que j'ai envie de faire, si tu veux. Donc là, tes équipes m'ont appelé en me disant « C'est génial, on adore ce que tu fais. Enfin, » lectrice de Mademoiselle, apparemment, de mon ancienne boîte,
on en a
etc.
parlé.
Voilà. Donc c'est trop bien. Je suis très, très heureux. Et elle m'a raconté un petit peu l'histoire. Et je me suis dit « Let's go, on y va. Allions l'utile à l'agréable. » C'est trop bien, quoi.
Je te fais la version off. Mais Julien, mais t'es un ouf. La moitié des gens de Équateur lisaient Mademoiselle quand elles étaient ado.
Oh shit.
D'accord.
En même temps, t'es pas dans la cible, je peux pas t'en
vouloir. Moi, je connaissais pas, non.
C'est comme Pierre Tchernia, tu vois.
C'est pareil, je connais pas Pierre Tchernia, par contre.
Julien, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans?
Alors, en plus, je savais que t'allais poser cette question, donc je me creuse la tête. Donc, 7-8 ans, pour moi, c'est le CE2, qui est une année où j'aimais pas trop la maîtresse. Et donc j'en ai un souvenir faible. Je pense que mon esprit a décidé d'effacer le CE2 de sa mémoire. Mais donc j'étais un petit garçon qui, si j'étais comme en CM2, on va dire, je m'en souviens plus, j'étais un petit garçon qui vivait à Aix-en-Provence où il était né. Moi, j'ai fait toute ma vie, toute ma scolarité depuis la crèche jusqu'à la prépa dans 1,5 km de rayon. J'allais à l'école Jules Isaac et j'avais mes copains. Et je viens d'une famille aisée, donc j'avais une grande maison avec un grand jardin. J'étais très malheureux parce que tous mes copains avaient des voisins et qu'ils avaient la chance de vivre en appartement et moi non. Et donc je comprenais pas pourquoi je subissais autant ça. Et c'est assez bizarre, ça m'est resté très longtemps. Ça.
Ok. Donc t'avais des potes?
Donc j'avais des potes dont un qui est mon plus vieux pote que j'ai rencontré en CM1 parce qu'il n'était pas encore arrivé à Aix, lui en CE2. Et que je vois encore très régulièrement.
Ouais. Ok. Comment ça se passe ta scolarité? T'es un élève brillant?
Je suis un élève, ça dépend du point de vue, tu vois. Ça dépend des profs aussi, ça dépend de l'humeur de mes parents. Je suis un bon élève en maths et en physique. C'est-à-dire que j'ai des très bonnes notes sans faire de gros efforts pendant longtemps. Je suis... plutôt petit, à partir de la sixième, ça, j'ai grandi assez tard, j'ai perdu ma dernière dent de lait en passant le bac. Donc voilà, ça te donne un peu une idée. Ce qui fait que j'avais des groupes d'amis assez fermés, mais j'étais pas dans le groupe des cools. Et donc sixième, cinquième, c'était sympa. Quatrième, troisième, c'était... j'ai fait longtemps, en quatrième, je suis tombé dans les jeux de rôle.
Ah, t'étais ce genre de nerd.
J'étais, voilà. Ouais. Et à l'époque,
c'était pas cool.
C'était pas cool. Et il fallait trouver les règles aux États-Unis. Tu vois, on faisait des imports. J'avais un oncle qui était médecin, qui faisait des conférences là-bas. Il m'a ramené des bouquins introuvables en France. Et je passais mes journées, mes week-ends, mes soirées, mes heures de perme à faire ça avec mon groupe de potes. Et donc voilà, ça c'était la cellule de groupe de potes qui était soudée et fermée vis-à-vis de l'intérieur, mais aussi protégée.
Okay.
Et puis ça s'est terminé en entre la première et la terminale, où j'ai fait mes premières vacances tout seul en première. Je fais un stage tout seul à l'UCPA l'été, et enfin de la première à la terminale. Et puis j'ai eu une poussée de croissance qui a fini par arriver. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie que lancer des dés.
Par exemple les meufs.
Par exemple. et donc là en terminale, je me suis retrouvé dans le groupe des gens qui faisaient la fête et qui étaient heureux. Et donc voilà, c'était... C'était une nouvelle vie qui a commencé, on va dire, pour moi.
Ça t'a un peu marqué, forgé, le fait que tu sois le petit dans la classe
Je me suis souvent demandé, ouais, je sais pas. Je sais pas.
C'est dur pour un mec
d'être petit. Je sais pas. J'avais surtout l'air jeune. Hein. C'était pas que j'étais petit, c'était que j'avais l'air jeune.
Ouais.
J'ai encore des potes qui sont devenus des super potes et avec qui j'ai commencé à être très pote en terminale, qui me disent « Mais quand on t'a vu la première fois rentrer dans la cour en seconde, on s'est dit « Mais qui c'est ce collégien ?» Donc, mais on ne peut pas trop dire si c'est dur ou pas. Comment ça aurait été si j'avais été autrement? Je ne sais pas. Et moi, ce que je constate a posteriori, c'est que toutes les stars du collège on finit comme des anonymes ensuite. Et je me suis fait toute une théorie là-dessus. Si t'es la star de la cinquième, t'es anonyme en troisième. Et donc, écoute. Moi, je suis à ton podcast, donc je suis star à 50 ans. Voilà, chacun son époque.
Non, mais tu sais, je te demandais ça parce que je crois aussi que tu peux te forger une forme de personnalité aussi dans l'adversité. Et notamment les mecs sont pas très sympas entre eux, quoi. Tu vois.
Non, pas très. Non, ouais, pas toujours. Ouais. Oui, c'est possible, mais. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça Ouais, bah écoute, je sais pas.
Non, mais tu vois, je tends une perche, après tu la prends pas. tu disais qu'après, tu t'es lancé dans une prépa.
Ouais, enfin, je me suis lancé. T'es bon en maths. Tu fais en prépa. Moi, je suis donc fils de prof. En cinquième, on m'avait expliqué ce que c'était que Polytechnique. Et on me faisait dire à tous les amis de la famille, je ferai maths-spé Polytechnique. Et donc, j'ai fait maths-spé. Moi, je n'ai pas eu Polytechnique, au grand désespoir de ma famille. Mais donc, j'ai fait prépa parce que j'étais bon en maths et c'était un non-choix. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire prépa, en fait, parce que j'étais effectivement bon en maths. Donc, je m'en suis sorti plutôt avec les honneurs, parce que là aussi, je me suis fait des amis. Et je me souviens le discours du prof de physique en maths-sup. Vous vous ferez des amis forgés dans l'adversité, des amitiés qui dureront toute une vie. Alors oui. Alors il avait raison. Et donc, voilà. Puis moi, j'étais toujours à Aix, j'étais toujours chez moi. C'était un environnement qui était, a posteriori, très très protecteur en fait, et très familier pour moi, donc assez rassurant.
T'avais pas envie de te barrer justement, post-bac ?
Alors... Donc, quand on était en maths sup et puis en terminale, je crois déjà, on apprenait le plan du métro de Paris par cœur pour montrer que nous, Paris, on maîtrisait. Et puis, je me suis barré, mais ça m'a changé. C'est-à-dire qu'en spé, je ne voulais plus vraiment aller à Paris. Et puis après, en spé, une fois que tu fais tes concours, ce n'est pas toi qui décides où tu vas, c'est tes notes et la plaquette de l'école. Et donc, moi, j'ai eu... Enfin, c'est le premier choc de ma vie, c'est à ce moment-là, en fait. Donc, je fais maths sup, maths spé. Donc, je te dis, 1,5 km de rayon depuis la crèche. J'ai des potes, etc. Et je m'apprête à faire 5 demi. Donc, 5 demi, c'est quand tu redoubles ta maths spé pour refaire tes concours, pour avoir des meilleures écoles. Parce que dans les écoles que je m'étais fixées, j'en avais eu aucune. Et voilà. Et je me doutais... Et quand tu fais spé, tu sais que tu as déjà une interro le premier jour en physique, quoi. Et je me doutais du sujet parce que tu commences à connaître le truc. Et je savais que je ne savais pas le faire. Et je m'étais dit, juste avant la rentrée, je vais bien bosser à la maison et je vais cartonner dès le début. Et en fait, non, j'ai rencontré des gens sympas, un groupe d'amis. On a fait une folie, toutes 2 semaines à 6h du mat. Et donc, on arrive le mardi, donc la rentrée c'était le lundi, on arrive le mardi, j'ai l'interro de physique. Le mardi après-midi, j'ai pas révisé le truc, je sais que je sais pas le faire. Et je suis chez un pote qui lui avait déjà choisi une école et je vais bouffer chez lui le midi. Et là on va sur le Minitel, à l'époque c'était le Minitel, pour voir où on était les listes d'attente.
C'est l'ancêtre de l'ordinateur, c'est quand même une petite update pour les jeunes qui nous écoutent.
Et c'est l'ancêtre d'Internet et de l'ordinateur, ça faisait les deux, c'était tout en un. Et donc là, bing, je vois que je suis pris à Télécom Bretagne. Je suis l'avant-dernière admis en fait. Et je reviens pas quoi. Et donc je téléphone et je tombe sur la secrétaire des études qui me dit oui, vous êtes pris, oui, et puis on vous attend depuis hier, c'était la rentrée, c'était hier. J'ai dit, ah bon, quoi?
Et alors, pas prévenu.
En fait, comment tu voulais qu'ils me préviennent? Il n'y avait pas de portable. Enfin, c'est.
Oui.
tout ça, c'est. Et puis, ça datait peut-être du matin. Je pense qu'il y a eu la rentrée. Il y a des gens qui ne se sont pas présentés. Et donc, ça a libéré des places. Et moi, je suis passé comme ça. Et donc, ce qui fait que je suis resté chez mon pote. On a bu un pastis. Et je suis arrivé à l'interro par. en petit merdeux. Par la porte du fond pour traverser toute la salle, regarder mes copains qui eux restaient et les nouveaux, qui avaient effectivement le sujet que j'avais anticipé et que je ne savais pas faire. Et je suis allé voir le prof de physique, j'ai dit, je suis admis à Télécom Bretagne, je m'en vais. Et là, il y a eu les potes qui eux avaient déjà intégré, qui sont venus me voir et m'ont dit, ah mais finalement, tu fais pas SP, oui. Ah bon, alors, ce soir, il y a une soirée en fait, on t'avait pas prévenu pour pas te dégoûter, voilà. Et donc, grosse fête. Et le jeudi matin, je me retrouve sur le tarmac de l'aéroport pour partir à Brest. Aix-en-Provence, Brest, prévenu le mardi, le jeudi, avec mon père qui me dit « Et fais attention aux marées. » Parce que tu vois, on vient du sud, quoi.
Et fais attention au tsunami.
C'était ça, dans les marées, tu vas mourir. Et donc, je me retrouve le jeudi soir avec ma petite valise à Brest. Et ça, ouais, c'est le gros choc, quoi. C'est le gros choc. Et j'avais même pas prévu qu'on travaillerait, donc j'avais pas pris de cahier ni de crayon. Parce que tu sais, à l'époque, on te dit, tu fais maths sup, maths spé, puis après, tu branles rien. Après, tu ne travailles plus. Mmh. Et donc, je pensais que c'était vrai. Et j'ai tout fait pour que ça le soit, d'ailleurs, sans aucune fierté. Mais donc, j'avais même pas prévu de prendre un cahier et un crayon.
Ok. Et ça, tu dis que c'est ton premier choc, parce qu'effectivement, ça t'a sorti de ta bulle, quoi.
Ah, ça m'a complètement sorti de ma bulle. J'avais un groupe d'amis hyper proche, dans un pays où il fait beau, où je connaissais tout. Et d'un coup, je me retrouve dans un campus qu'on m'avait dit comme étant le plus beau de France, ce qui était vrai. On avait la plage sur le campus, on avait deux terrains de tennis, un terrain de foot, un terrain de rugby, une salle de sport, le cinéma, tout ce que tu veux. Bon, en fait, c'était moins bien que chez moi. Et en plus, il faisait pas beau. Et la mer était froide. Et je connaissais personne. Et je suis arrivé après la rentrée. Donc, l'intégration était un peu compliquée. Et donc, oui, au départ, ça a été assez dur. Et j'ai même failli retourner en prépa à la Toussaint.
Ah ouais?
Ouais. J'ai dit, non, je peux pas, je rentre chez moi.
Qu'est-ce qui t'a empêché?
Yann-Yot, qui, s'il m'écoute, merci, binôme.
Bonjour,
c'était mon binôme. Et lui, il avait fait Louis-le-Grand à Paris. Et il avait fait 5 demi. Et en 3 demi, il avait eu des meilleures écoles qu'en 5 demi. Et puis en 5 demi, accident de concours. C'était quand même bien, Télécom Bretagne. Mais voilà, lui, il voulait Polytechnique. Et il n'a pas eu, il a été chez Télécom Bretagne. Et c'est lui qui m'a dit, non, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Regarde, voilà mon expérience. Un copain, lui, à qui il est arrivé pareil. Écoute, profite, c'est bien et tout, tu vas t'adapter, quoi. Ben, il avait raison et après je me suis adapté.
Tu t'es adapté. Comment se passent tes études?
Oh là là, ça c'est le bonheur. Là c'est la maison du bonheur. Donc une fois que tu t'es adapté, l'école d'ingénieur c'est exceptionnel. En tous les cas, Télécom Bretagne à cette époque. Un groupe d'amis là que j'ai toujours aussi qui est formidable. Une liberté absolue. Tu te retrouves, tout est possible. J'ai commencé à faire énormément d'activités, ce que je faisais beaucoup, beaucoup moins avant. Donc, de l'aviron, du théâtre, de l'aïkido, j'ai adoré le théâtre. J'ai beaucoup moins travaillé, beaucoup, beaucoup moins. En deuxième année, je me souviens, au bout d'un trimestre, le directeur des études qui vient me voir et me dit « Monsieur Tchernia, dans la promo, à part les non-francophones, il n'y a personne qui a une moyenne générale plus basse que vous. » Oui, d'accord. Bon, mais je vais m'y mettre. En fait, je m'y suis mis, mais ça se voit pas encore dans les notes. Et là, il se marre et il me dit partez. Et beaucoup de théâtre. Voilà, puis tu vis ta vie pour la première fois sans tes parents, en fait. Enfin, moi, c'était le cas. Et donc, c'est les vacances aussi avec les potes. C'est la débrouille, c'est intermutuelle assistance. Merci beaucoup pour avoir financé tous mes voyages. Et la voiture est cassée, il nous faut une voiture de loc. Et donc, les 400 coups, et merveilleux. Merveilleux, avec des étapes. La première, ça a été, je me plaisais tellement à Brest, finalement, que j'ai accepté de faire un stage d'un an en plus de l'école d'ingénieur, ce qui était complètement nouveau à l'époque, pour rester un an de plus à Brest, continuer à faire du théâtre avec la troupe. Et donc, j'ai pris un stage chez Thomson CSF, c'est Thales désormais. J'avais les cheveux longs. Et j'ai raté mon entretien, mais j'ai été pistonné par l'école avant.
Les années 80, c'est ça?
Oh non, c'était 80. Merci. Non, quand même pas.
Attends,
c'était 91.
Ouais.
Ça, c'était... Non, 92.
Ok.
92, l'entretien chez Thales avec le DRH qui me fait parler de tout. Moi, naïf, ouais, théâtre, machin et tout. Et je trouvais que ça se passait bien. Et il finit l'entretien en me disant: en somme, vous êtes un artiste, vous serez incapable de vous adapter à des horaires industriels. Et là, je me dis: je pense que j'ai raté l'entretien, là. Et donc, ils ne voulaient pas me prendre. Et mon école pistonne en disant non, mais vous rigolez. Et donc, ils m'ont pris. Et ça a été un peu la guerre avec le DRH pendant toute l'année. Par contre, le truc, c'est que... Donc, tu vois, je te dis, j'ai fait la fête en école d'ingénieur. Bon, super. Et puis, au bout de 2 ans, en fait, tu vas être ingénieur. Tu t'en rends compte, quoi. Il ne reste plus qu'une année. Et tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne l'as pas choisi. Moi, j'étais bon en maths depuis... depuis la cinquième, on savait que j'étais bon en maths et que je ferais maths sup, maths spé. Et j'ai intégré mon école parce que voilà, j'ai été pris et que je voulais pas aller à l'interro de physique. Et tu vois, t'as plein de petits hasards qui font que je me suis retrouvé à Télécom Bretagne à ce moment-là être ingénieur. Mais en fait, c'est quoi ingénieur ? Mais attends, je ne le sais pas. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce stage d'un an. J'ai dit, il y a un moment, il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est que ce métier dont on me parle et pour lequel on me forme.
Et puis, en plus, c'est un métier qui est très large. Enfin,
en fait, c'est très large, oui.
Tu peux être ingénieur dans plein de choses.
Et donc là, j'ai commencé sur des radars anti-collision pour véhicules. Donc, il y avait une branche civile chez Thomson, chez Thales. On était 4 et le reste, c'était 3000 personnes qui faisaient les radars pour les rafales et des trucs comme ça. Et donc, on avait une 605, on mettait des radars devant et on vérifiait si on arrivait à freiner à temps ou pas. Et j'ai découvert donc là le métier d'ingénieur R&D, que j'ai trouvé sympa et pas pour moi. Et puis après, j'ai décidé de bouger à nouveau.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu dis que jusque-là, t'as pas vraiment choisi ton parcours. Et j'ai un peu l'impression que les trucs que t'as choisi, là, tu m'as parlé du théâtre de façon très...
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'était... Là, pour le coup, c'est un truc que t'as choisi de faire.
Ouais.
Et peut-être qu'il se plante pas complètement, le DRH, à l'époque, quand il dit « En vrai, tu veux être un artiste ».
Non, il a raison. Ouais, il a raison. Je voulais faire du théâtre, ouais. J'ai reçu une lettre de mon père.
Comment ça ?
Bah, je faisais de théâtre, je parlais beaucoup de théâtre, je pense. Et donc un jour, j'ai reçu une lettre de mon père, tapé à la machine. Quelques réflexions simples. Pour faire du théâtre, 1, il faut avoir du talent. 2, il faut avoir une grande culture. Je ne sais pas si tu réponds à la première condition, je sais que tu ne réponds pas à la seconde.
Quel âge ?
Bah, 21 ans.
Oui, donc pendant cette période-là. Ok, ton père a pris ton rêve.
Et il l'a broyé, ouais.
Il l'a jeté à la poubelle.
Il m'a dit dehors. Et après, tu te dis, tu finis ton truc, tu gagnes de l'argent et puis tu le referas. Et j'ai continué à faire du théâtre amateur et tout.
Tu le vis comment, ce truc-là, à l'époque ?
C'est mon père, c'est pas nouveau.
Ok.
Tu vois, c'est
quand même pas cool.
Ben voilà, c'est pas nouveau.
Ok.
Ouais, c'est pas nouveau. Et donc, je le vis comme ça. Et puis, je continue et je reste à Thomson. Et après, je pars en Pologne. Et en 93, en Pologne... le mur vient de tomber, aller en Pologne, c'est comme aller au pôle Nord. Hein. Et là, c'était une opportunité aussi. L'école venait d'ouvrir une antenne en Pologne. Et,
tu fais quoi ? Tu fais un stage ?
Et donc, je fais ma troisième année de spécialisation.
Okay.
Et puis, c'était tellement bien que je trouve un stage aussi. Et je devais y rester 6 mois, je suis resté 1 an et demi. La Pologne en 93... c'était, je sais pas si tu as lu Victor Hugo 93, justement, qui commence par... donc l'ambiance en France en 1793, un peu après la Révolution, et j'ai retrouvé cette même ambiance en Pologne, enfin j'ai retrouvé dans ce livre l'ambiance que j'ai vécue en Pologne, c'est-à-dire une liberté absolue et des gens qui pourtant font attention à tout et aux autres, une certitude de... J'ai découvert une mentalité qui était l'opposé de la mentalité française. Je racontais que si en France il y a un trou dans l'autoroute, le premier râle, le deuxième râle, le troisième s'arrête, appelle TF1 et dit « Regardez, c'est dégueulasse, c'est inadmissible, il y a un trou dans l'autoroute. » En Pologne, s'il y a un trou dans l'autoroute, le premier l'évite et le deuxième s'arrête, le rebouche et le troisième vient l'aider et après tout le monde continue. Et enfin, en tous les cas, c'était comme ça. Hein. Je sais pas si c'est resté comme ça. Et vivre ça dans ce pays où en plus, qui était très francophile, Et moi, j'arrivais. En plus, là, j'avais un pouvoir d'achat important parce que j'étais français. J'avais ma deux chevaux qui avaient des enfants qui la regardaient. Tu vois, quand je la laissais garer, je revenais, il y avait des enfants autour. Donc, une liberté encore plus absolue. Et dans un pays étranger où j'étais pas français, j'étais français. Et donc, dès le début, t'as une carte de visite, tu vois. Et j'ai adoré. Je suis d'ailleurs, ma première épouse était polonaise. Et puis après, j'ai eu le virus de l'étranger. C'est-à-dire que depuis la Pologne, je suis parti en Italie, etc.
Et t'as vécu en Italie, enfin, ouais. T'as fait une grosse partie de ta carrière en Italie, c'est ça, non?
J'ai fait 4 ans et demi en Italie.
Ok.
Donc Pologne... après, je sais pas si les petits détails... Donc en Pologne, je faisais pas mal la fête. Hein.
Étonnant.
Et donc j'usais de substances... qui t'abîme l'esprit et un midi je me réveillais à peine, le téléphone sonne, j'hésite, est-ce que je réponds pas, et je me fais mon café, je réponds, je tombe sur quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, à l'époque le service militaire était obligatoire, et il me dit bonjour, vous êtes monsieur Tchernia, oui, j'ai vu que dans votre CV il y avait marqué maintenance informatique, j'avais fait un stage où j'avais remis du papier dans l'imprimante, tu vois. Je lui dis oui. Il me dit, bon, vous voulez aller où? À Pékin, à Bucarest ou à Rome? Et là, je dis, je sais pas. Il me dit, non, mais choisissez, il faut choisir tout de suite. Je peux choisir d'ici demain. Et donc, j'ai réfléchi la journée et je suis parti à Rome.
Ah, donc, le ministère des Affaires étrangères t'appelle pour faire ton service
pour
militaire?
Pour faire mon service militaire à l'ambassade, au Palais Farnèse à Rome. Et là, enfin, tu vois, c'est...
Mais ça devient d'où? Ça devient d'un piston? Il y a un moment donné où...
Non, ça vient d'un... Il y avait marqué maintenance informatique sur mon CV. Et ils ont dû mettre ça comme mot-clé. C'est incroyable, hein?
Oui.
C'est incroyable. Et parce que je cherchais un CSN à cette époque, oui. Donc j'étais quand même dans la base de données des gens qui cherchent un CSN. Et puis, depuis le Covid, j'ai des fois un peu la gorge comme ça. La vie est pleine de hasards. Et tu cherches des trucs et c'est la vie qui te répond d'une autre manière. Tu te retrouves à Rome, Palais Farnèse, ça veut dire que tu arrives avec ta deux chevaux au milieu de la Piazza Farnèse et les portes s'ouvrent et tu te gares à la classe. Et j'ai fait un an et demi là-bas et là, je suis tombé amoureux de l'Italie. Mais j'étais déjà amoureux de la Pologne, donc je suis tombé amoureux de l'Italie. Voilà aussi, tu te fais un groupe d'amis. J'ai pas mal de groupes d'amis, tu vois, qui datent des différentes époques et que je vois encore beaucoup. Et je sais pas si toi, il y avait encore le service militaire.
Non, je fais partie de la... Moi, je suis 77, fin 77, donc d'accord. Je suis vraiment la limite. J'y ai échappé de justesse, quoi.
Voilà. Mais moi, je regrette pas, en fait. Tu vois, en plus, j'étais au service du chiffre, donc ça commençait par un mois de formation sur l'espionnage avec des barbouzes à Paris qui t'expliquent comment repérer si ton courrier a été ouvert. Et qui te disent, alors c'était que des mecs, hein, c'était très macho comme ambiance, donc il y a un mec, une espèce de mec hyper bronzé, la baraque comme ça, qui harangue un groupe d'une centaine de personnes, et qui dit, bon alors, s'il y a une fille qui vient voir, et qu'elle aime tout ce que vous voulez, et qu'elle est toute pareille, c'est qu'il cherche à vous corrompre. Mais attention, hein, il y a des Eurasiennes qu'il ne faut pas rater.
Tu dis, c'est énorme. On est dans OSS 117.
C'est ça, on est dans OSS 117. Ah, moi, j'ai aucune Eurasienne qui s'est intéressée à moi dans mon rôle. Mais bon, c'était peut-être qu'à Rome, il y avait moins de d'espionnage qu'ailleurs. Mais c'est les petites anecdotes. Ouais. Et
donc,
puis voilà.
Donc tu fais ton service militaire là et tu restes en Italie après ?
Non, je cherche du boulot à l'étranger à nouveau. Je ne veux pas revenir en France et je ne veux pas bosser à Paris. Donc là, le virus de Paris m'a définitivement passé et je fais tout pour ne pas retourner à Paris. Donc j'envoie des CV qui écrit partout, je veux rebosser en Pologne. Ce qui n'était pas très malin de ma part. Et donc d'ailleurs, j'ai très peu de réponses. Et j'ai finalement quelqu'un qui me répond et qui me dit, ben nous, on vous fait bosser à Mâcon. Je n'étais jamais allé en Bourgogne de ma vie.
C'est pas vraiment la Pologne.
Non, c'est pas vraiment la Pologne, mais bon, il fallait trouver un boulot au bout d'un moment. Et j'y vais. Et donc, c'était Schlumberger. Et ils mettent les petits plats dans les grands. Ils ont su mettre des étoiles à un jeune diplômé. Ils m'ont fait venir en taxi, qui devait être briefé presque le taxi, tellement ils me disaient du bien de la ville. Ils me montrent un truc, enfin voilà. Et ils me payent bien. Et je m'installe à Mâcon. Mais qui est presque, pour moi, aussi long que l'étranger, si tu veux, à ce moment-là. Et là, j'ai passé, quoi, 2 ans et demi en Bourgogne. Et c'est un piège, la Bourgogne. Hein. Une fois que tu y es, t'as plus envie de partir.
C'est une prison dorée.
Ouais, ouais, ouais. Et j'ai refait de l'aviron, j'ai refait du théâtre, et j'ai refait tout ça. T'as ton petit appart, t'as ta maison. Enfin, tu peux avoir assez vite ta maison, j'avais pas, mais je louais. Mais il fait beau. En plus, j'ai appris à découvrir le vin. Avec mon club d'aviron en Bourgogne. Donc déjà que je t'explique, tu fais une demi-heure d'aviron, après tout le monde est vigneron, donc après tu goûtes le vin blanc. Et au début je disais, mais je sais pas faire la différence entre le vin. Ils me disent, bon, ils me mettent 3-4 verres et tu les goûtes à la suite, et là tu vois qu'il y a une vraie différence. Quand on partait en week-end au ski avec le club d'aviron, les premières bouteilles s'ouvraient dans le bus, enfin à 5h du mat. Enfin voilà, voilà. J'ai moins de contact avec les gens avec qui j'étais là-bas, mais t'es dans un monde où tout ce qui se passe à l'extérieur ne t'attaque pas. C'est le gros avantage d'être à l'étranger. Hein. Le bordel étatique ou gouvernemental ou politique qu'il peut y avoir dans le pays dans lequel tu vis, tu t'en fiches parce que c'est pas le tien. Mmh. Et celui qui est en France, c'est très loin. Donc, surtout à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet. Donc, tu n'avais pas les radios locales, quoi, les radios françaises, et à part en grandes ondes France Inter, et en ondes courtes, pardon, France Inter, et donc tu vis dans ta bulle, et finalement rien ne te touche. Et à Macron, c'est pareil. Tu te disposes des trucs à Paris, quoi. Il y a peut-être des manifs et tout, mais c'est pas chez toi, c'est jamais chez toi. Et toi, tu vois la Bourgogne magnifique, quel beau paysage. Je sais pas si tu sais pourquoi c'est aussi beau que ça, hein. Mais j'ai appris, c'est-à-dire qu'on, à l'époque en tout cas, on paye les paysans, donc les agriculteurs reçoivent des subventions écologiques à caractère paysager. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont payés pour tailler les haies et tondre les champs, même ceux qui laissent en friche et en jachère et dont ils n'ont pas besoin, pour que ça soit joli.
Mais je ne savais pas.
Et là, quand tu as vécu en Pologne ou en Italie, tu te dis la France, c'est quand même un pays riche, quoi. Parce qu'on a de quoi se payer le fait de faire travailler les agriculteurs à des endroits où de même ils n'iraient pas parce qu'en fait ils n'ont rien à y gagner, quoi. C'est énorme, et tant mieux, hein, tant mieux. Mais c'est parce que c'est vraiment joli.
Bah oui.
Et voilà, et après au bout de 2 ans et demi, soit tu restes en Bourgogne, oui, soit tu t'enfuis.
Et tu t'es enfui, j'imagine.
Et je me suis enfui, j'ai cherché à l'étranger à nouveau et je me suis retrouvé en Belgique.
Ok.
Voilà, pareil.
Pour quoi faire ?
Pour faire consultant. Oui, en plus, j'aimais pas trop mon job, qui était un job d'ingénieur R&D, en fait. Et donc, je me retrouve consultant. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, l'étranger. Et puis, je me dis, Julien, j'avais quel âge à l'époque ? J'avais 27 ans. J'avais fait 4 types de boîtes différentes. Chaque fois, ça n'avait pas plu. Et je me dis, il va falloir que tu te calmes à te barrer tout le temps. Donc, fais consultant, découvre des boîtes et trouve celle qui te plaît et vas-y. Donc, je me suis fait embaucher par Altran avec la certitude que je n'y resterai pas. Puisque ce que j'étais venu faire, c'était chercher les bonnes boîtes. Et je suis allé à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est sympa aussi.
Oui, Bruxelles, c'est très sympa pour tout ce qui est fait.
Ouais, pour tout ce qui est fait à cet âge-là, en plus, enfin voilà, c'est très très international, Bruxelles. Il y a pas trop de Belges, c'est-à-dire qu'il y a que des étrangers qui viennent d'arriver et qui cherchent des amis.
Ouais.
Donc c'est assez facile de se faire un réseau. Et puis là, ma vie professionnelle a commencé là-bas, on va dire.
Ok. Ouais. Ou tu t'es dit, ok, faut que je, enfin comme tu dis, faut arrêter de papillonner un peu, c'est ça, entre les boîtes ?
Ouais, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que donc chez Altran, t'avais les consultants et puis t'avais un métier qui était business manager, où tu partais de rien et tu devais créer ton équipe, tes clients et créer finalement une activité. Et donc, moi, en tant que consultant, j'ai connu tout le monde chez Altran en Belgique, Altran Europe. Et un jour, ils m'ont dit, on n'a aucun intérêt à te faire évoluer comme consultant, on te veut comme business manager. Et c'est-à-dire que tu ne feras plus un métier d'ingénieur. Et j'ai dit oui, puisque c'était une super promotion chez Altran. Et j'ai commencé, donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat de ce que j'ai appris en étant business manager chez Altran.
Et ça te fait pas chier, tu vois, de te dire, ah merde, je me suis formé pendant toutes ces années-là à apprendre un métier. Et en fait, au bout de quelques années de vie professionnelle, tu switches et tu fais complètement autre chose.
J'ai pas de regret de rien. Donc ça me fait pas chier parce que oui, mais enfin j'ai découvert Macon et la cave à musique. J'ai découvert Poznań et les Skoolap. J'ai découvert Rome et le Oulala. Et je te parle que de nom de boîte, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et j'aurais pu faire, tu vois, et la Bretagne et tout ça. Et j'ai eu une vie extraordinaire, professionnellement pas hyper enrichissante. Mais tous les amis que je me suis fait, tous les contacts, tout ce que j'ai appris, le contact de faire 4-5 cultures régionales même ou nationales différentes, c'est une ouverture d'esprit qui m'a été imposée par ma mobilité géographique et que je ne pourrais jamais trouver ailleurs. Il faut habiter ici. J'ai imposé, donc ici parce qu'on est dans les bureaux d'Équateur, et j'ai imposé qu'il y a un vestiaire. Les gens doivent mettre leur manteau au vestiaire et pas sur le dossier de leur chaise. Et d'où ça me vient ça ? De la Pologne.
Ok.
Où en Pologne, la première fois, nous Français, on arrivait, on mettait nos manteaux sur la table à côté et on s'est fait engueuler par un prof qui a dit que c'était mal poli, qu'on était vraiment des salauds de Français, tout crado, mal éduqués, comme tous les Français, qui ont encore volé dans les frigos. Enfin, on était les immigrés, hein. Et qu'il fallait donc mettre son manteau au vestiaire. Ce que nous Français, on faisait pas, puisqu'on allait se faire tout piquer si on mettait son manteau au vestiaire, évidemment. Et donc, j'ai appris à le faire. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus commode. T'es plus gêné. Ton manteau, il tombe plus par terre. Tu roules plus avec les petites roulettes dessus. T'as personne qui marche dessus. Tu retrouves le truc. C'est plus joli parce que ça fait plus de place pour tout le monde. Et donc, bon, c'est une anecdote. Mais c'est se rendre compte dans un pays qu'il y a une autre manière de voir les choses et qu'elle peut être même mieux par rapport à toi, ton point de vue.
OK.
Et pareil pour l'Italie et même pour... oui, même en Bretagne par rapport à Aix. C'est un autre monde.
Oui, j'imagine. Donc, tu business manager, alors, tu te lances ?
Ouais, donc business manager, je me lance en 2000. Métier au départ hyper dur. Donc, tu es formé, très bien formé. J'avais un coach qui était mon chef et qui s'appelle Pascal Affineur, que je cite tout le temps parce qu'il m'a tout appris, mais il le sait maintenant. Et métier très dur, très, très dur. Je me souviens, j'ai un copain qui était avec moi, justement consultant, qui lui aussi est passé business manager, qui juste avant vient me voir et me dit « Alors, est-ce que c'est bien ?» Et en pleurant, je lui dis de ne pas le faire.
Pourquoi tu pleures à ce moment-là ?
Parce que c'est trop dur.
Mais dur comment ?
Dur comme, tu ne te rends pas compte. Dur
non,
comme,
vas-y, dis-moi.
Donc, tu as des objectifs qui sont... C'est une machine. Donc, en fait, il faut que tu apprennes un truc. Et c'est comme on prépare, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si tu veux apprendre et apprendre vite, il faut bosser comme un fou, vivre un stress énorme et te retrouver face à des situations que tu penses indémerdables. Et donc nous, on devait faire 10 entretiens de recrutement par semaine, 5 réunions clients, 2 réunions de ce qu'on appelait des réunions de qualification et faire une croissance de 2 par mois, chose qui était à peu près impossible à faire, enfin très très difficile. Et tu es un métier... le métier d'ingénieur est un métier cartésien et assez déterministe. Tu es de un point A et tu dois aller à un point B. Et par exemple, sur l'informatique, il y a une solution. Elle est peut-être plus longue, elle est peut-être plus chère, elle est peut-être moins efficace, mais il y a une solution. Et tu peux mettre ton effort un peu en fonction de ton humeur ou de ton énergie ce jour-là. Business manager, donc tu dois, trouver un client. Donc, tu prends son téléphone, tu as 40 secondes pour lui parler et pour obtenir un rendez-vous. Si tu as raté dans les 40 secondes, tu as raté dans les 40 secondes. Donc, c'est ton premier moment où tu as barre. Après, tu as une heure de discussion avec lui. Donc, tu as une heure où tu as barre. Après, et c'est de la soft. Hein.
Ouais.
Après, toi, tu dois trouver des candidats. Donc, c'est pareil, tu dois leur donner envie. Donc, tu n'as qu'une heure aussi. Tu les prépares. Et ensuite, tu fais rencontrer le candidat et le client. Et toi, tu n'es que l'animateur. Donc, il y a une heure aussi, mais voilà. Et donc, tout ça, ça fait que tu n'as que 4 heures de temps pour réussir une affaire, 4 moments où tu peux intervenir. Et après, c'est mort. C'est soit tu l'as fait à ce moment-là, soit... Donc, tu as besoin d'une hyper-concentration sur ces moments-là. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Quand tu fais 3 réunions comme ça dans la journée, t'es épuisé. Mmh. Et même maintenant, quand je l'ai fait, t'es épuisé. Et quand en plus, t'as pas l'habitude, enfin, les premières fois... Mmh. Je me souviens, la première réunion, je suis allé, j'avais rendez-vous chez Cycli pour voir s'ils voulaient des consultants, les extincteurs. Et ils me disent, on est à côté de l'IKEA. Moi, je savais pas qu'il y avait 2 IKEA à Bruxelles. Alors déjà, t'es avec ta bagnole, t'arrives au premier IKEA, tu trouves pas l'adresse, il y avait pas de GPS. T'es comme un con. Alors tu finis par les appeler, il y avait déjà des GSM. Et ils te disent, non mais c'est l'autre IKEA. Déjà, tu te dis, déjà je passe pour un charlot. J'arrive, boum. Je fais la réunion, il y a 2 personnes,
une dame, un monsieur, beaucoup plus âgé que moi, qui m'écoute et qui visiblement, ils n'ont rien à acheter chez moi, c'est clair. Et je ne leur donne rien qui leur donne envie d'acheter, je leur fais juste pitié. Et je le vois dans les yeux. Et quand je leur ai dit au revoir, on se rappelle, et que je suis sorti, ils m'ont regardé, ça m'a rappelé ces images où tu vois les parents qui regardent leur enfant partir à la guerre. Mmh. Et ils se sont dit, le pauvre, il va se faire broyer. Donc, c'est très dur, tout le temps. Et t'as une pression monstrueuse, parce que Altran est organisé où ce métier-là, il est fait par 10-20 personnes en même temps. Et donc, tu peux pas dire, moi, j'y arrive pas. Ouais, toi, t'y arrives pas. Mais l'autre à côté, il y arrive. Mmh. Donc, allez, go. Et je m'étais promis aussi de jamais former quelqu'un à faire ce métier. Et puis finalement, j'ai cartonné. Et j'ai formé des tas de gens qui ont pleuré dans mon bureau.
Et on t'a dit, t'inquiète pas.
Et j'ai dit, t'inquiète pas, ça passera. Et c'est un métier merveilleux. En réalité, c'est un métier merveilleux. Ce qui est très, très dur, c'est le début. Mais une fois que t'as compris, mais ça m'est venu un jour, j'ai eu l'impression d'être... De voir, tu sais, comme dans Matrix. D'un coup, j'ai vu la Matrix. Mmh. Et j'ai vu j'ai plus vu les gens, j'ai vu les chiffres. Et donc, à partir de là, je décodais tout. Et là, c'est devenu un plaisir parce qu'il y a une grande partie de théâtre.
Ah, on y revient.
Et on y revient. Il y a une grande partie de représentation. Et ce qui est dur, c'est qu'au théâtre, tu apprends ton texte et après, tu es guidé, tu es appris. Enfin, tu as un metteur en scène. Et là, ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu fasses ton texte. Mais au bout d'un moment, peut-être un an, pour les plus rapides, peut-être 6 mois, moi plutôt un an et demi, finalement, ce que tu répètes, c'est un texte. Parce que tu l'as déjà fait 1000 fois. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à le jouer, à mettre l'intonation, à comprendre à quel moment le public veut ça. Et là, c'est devenu pour moi un bonheur. Et en plus, là, je me suis retrouvé avec des sommes d'argent sur mon compte en banque.
Tu gagnais très bien ta vie.
Ah ouais, d'un coup, c'était stratosphérique.
Comment tu le vis, ce moment-là ?
Cabriolet,
ouais.
Costume, la fête, très bien. Enfin, après, j'avais des problèmes perso, puisque j'ai divorcé à ce moment. Donc, t'as les deux côtés de la pièce. Mais donc, ça se passe très bien, je deviens associé en Belgique. Sauf que ça fait 6 ans que je suis en Belgique. Ça fait longtemps que j'ai plus bougé. Que la Belgique, au bout d'un moment, c'est petit. Ça devient trop étroit pour moi, que j'ai toujours mon rêve de Rome, qu'en plus, donc voilà, je suis à nouveau célibataire. Et donc, je pousse pour quitter Altran Belgique et aller ailleurs. Et je finis par me faire recruter par Altran à Rome, pour rentrer à Rome, où je repars à zéro.
Ouais.
Sans parler italien, où je parlais très mal italien. En fait, quand tu es à l'ambassade, tu parles quand même un italien de cuisine. Ouais. Tu n'as pas énormément besoin de parler l'italien. Et voilà. Et donc, je me retrouve en septembre 2004, seul, donc divorcé, en parlant mal la langue, en démarrant à zéro chez Altran, qui, on le sait, très dur et qui ne capitalise pas. C'est-à-dire, quand tu quittes une filiale pour aller dans une autre, tu repars à zéro. Et ce que tu as fait, on espère pour toi que ça t'a appris quelque chose parce que ça ne te donne pas d'upstart, tu vois.
Waouh. Dur.
Gros
risque.
Ouais, les gens me disent ça.
Juste pour changer de pays, dis donc. Enfin, où t'avais besoin de te réinventer.
Mais c'est un challenge. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas un risque, c'était une nécessité. J'en pouvais plus d'être en Belgique. Au bout d'un moment, t'es étouffé, quoi. Et t'es ouais, super. Alors, j'allais continuer à gagner bien ma vie. Et j'ai vu ceux qui sont restés là-bas. Ils y sont restés 10 ans, 15 ans. Ah, mais j'aurais pas pu. En fait, ça me rendait malheureux. Et donc, je suis parti à Rome, qui était en plus ma ville de rêve et qui est toujours ma ville de rêve. Et professionnellement, ça s'est pas super bien passé. C'est-à-dire que j'ai pas du tout réussi à réitérer la croissance que j'avais fait en Belgique. Par contre, personnellement, tu vois, j'ai pas d'amis belges, à part mes collègues. J'ai pas d'amis belges. Alors que je parlais français et qu'eux aussi. Je suis arrivé à Rome, je parlais pas italien. Maintenant, j'ai des amis italiens, romains, que je vois toujours, avec qui on s'écrit tout le temps. C'est une autre ambiance et... À force de voyager, je me suis rendu compte que chaque ville a son caractère et toi, tu as le tien. Et donc, il y a des villes qui te vont bien et des villes qui ne te vont pas. Et alors là, tu vois, je commence à avoir 30 ans, tu ne changes plus. Mmh. C'est juste, il faut trouver le bocal dans lequel tu es bien, quoi. Et Rome, moi, je suis bien à Rome. J'ai dû le quitter après, mais c'était merveilleux, Rome. J'adore cette ville, j'adore cet esprit, j'adore ces gens. Quand j'ai quitté l'Italie, après, j'ai reçu une plaque
de mes amis qui m'ont dit « Al francese più romano che c'è, gli amici ». Ça veut dire « Au français, le plus romain qu'il y ait, les amis ». Et pff, c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire.
Comment t'en viens alors à monter l'Équateur à partir de Rome ou...
Alors Rome, après j'ai encore des étapes,
ouais.
Mais on s'approche de l'Équateur. Rome, donc quand même professionnellement ça n'allait pas bien. Altran est réorganisé et j'ai un confrère qui s'appelle Olivier Brouan, qui est aujourd'hui actionnaire d'Équateur, donc que j'ai connu en Belgique en 99. Et qui, pour ces périodes-là, c'est encore ce chiffre-là qui me reste, et qui est parti chez un concurrent qui s'appelle Alten, où il est devenu directeur international, et qui suit tous les gens qui y croient, et qui me rappelle régulièrement.
Et, il te rappelle pour te...
Et il te rappelle tout le temps pour savoir des nouvelles et essayer oui. de te choper. Et donc là, il me dit, nous, on a besoin d'un directeur pour le développement pour l'Italie, Alten, parce que voilà, ils ont racheté des filiales qui avancent pas, ils veulent dynamiser tout ça. Et il me dit c'est toi, et c'est à Milan. Et je lui dis Milan jamais, voilà.
Pourquoi pas Milan?
Parce que Rome.
Oui. Bien sûr. Comme Paris-Marseille, quoi.
Mais c'est exactement ça. Alors là, c'est pareil. Et c'est en plus la même différence. Sauf que bon, et sauf que Rome c'est la capitale, mais les Milanais ils ont pas compris. Et un jour, je tombe amoureux d'une Milanaise.
Ah, quelle idée.
Et une semaine après, il m'appelle. Je ne sais pas comment il l'a su. Et il me dit, il paraît que tu veux aller à Milan, non? Il est fort, hein. Il est fort. Et donc, j'ai signé.
OK.
Et parce qu'il y avait ça et le fait que professionnellement, ça n'allait plus, quoi. Et donc, je suis parti à Milan. Et bon, l'histoire s'est finie après, mais j'ai eu la chance d'y rencontrer ma compagne actuelle. Et ça a cartonné à nouveau, là, donc reprofessionnellement, ça part. Mais là, il y a un moment où le Golden Boy en cabrio, qui vit pour sa gueule, qui passe tous ses week-ends avec ses potes, et vas-y, je t'appelle, je suis à Lisbonne, on va à Madrid, tiens, je viens d'Australie, je serai à Moscou, viens me voir, ok, ping ping, et tu peux dépenser ce que tu veux, et t'as quand même plus d'argent à la fin du mois, mais pourquoi faire, elle est où ta vie? Un besoin de paternité qui commence à me viscéralement naître chez moi. J'étais bizarre, hein, mais donc, tu vois, tu as envie de procréer. J'avais 35, ouais.
Okay.
Ça m'est venu, bing. Et puis, aussi une prise de conscience des enjeux environnementaux. Un peu par hasard. Et,
déjà, à l'époque. Ouais,
ah oui, c'est ça.
C'est tôt, hein.
Ouais, mais c'était ça. Et en fait, je me suis dit, un jour, je me souviens très bien, donc j'avais pris conscience de ça. J'avais envie de faire du business avec de la production hydraulique. Et je me souviens un jour, je me lave les dents, j'éteins le robinet, ce qui était assez nouveau. Déjà dans mes comportements, et en me disant bah si, il faut faire attention, sinon on va vers Mad Max 2. Et j'étais déjà convaincu de ça. Et puis là, en fermant ça, je me dis mais en fait, ça suffira jamais ça. Et si tu veux éviter ce Mad Max 2, il faut que tu agisses plus que juste ton action personnelle sur le robinet. Et en plus, tu t'emmerdes, et donc il faut que tu crées une boîte dans le renouvelable. Tu dis que tu sais faire du business, tu dis que tu sais créer une boîte, tu dis que tu crois en ça, agis.
Mais ça vient vraiment de cette quête de sens, quoi. 35 ans. Ok. Et parce que tu vends du conseil aussi.
Ouais.
Il y a un truc un peu... C'est du pipeau. Bah, excusez-moi, pour tous les consultants.
C'est, non, c'est...
Non, mais tu sais... Tu sais, c'est le fameux Romain Duris dans L'Auberge espagnole qui joue de la flûte, quoi, tu vois.
Ouais. Mais... écoute, je sais pas si on joue de la flûte ou pas. En tous les cas,
non, mais...
les gens sont contents d'acheter.
Bien sûr.
C'est ça qui compte.
Non, mais objectivement, il y a un moment donné. Où...
Franchement, objectivement, non. Chez Altran-Alten, c'est du conseil en ingénierie, donc tu développes les trucs.
Ouais.
Mais c'est pas du conseil en stratégie où tu fais des slides, ouais. Et c'est tout. Ou là, je veux bien te suivre. Mais c'est même pas ça. C'est que voilà, tu. Ouais, enfin. Rien, t'es là, t'es tout, il se passe rien. En plus, j'ai vraiment de plus en plus convaincu de ça. Et en plus, ça en vient à un problème où je me dis, il faut faire et je le fais pas. Il faut faire et je le fais pas. Et à nouveau, un peu comme après la Belgique, j'en peux plus de mon job, même s'il est parfait. Je m'ennuie au bureau, j'ai plus de challenge. C'est toujours pareil. Tout ce que je trouvais génial et innovant chaque fois, maintenant, je l'ai tellement fait que ça finit par s'user. Et j'ai du mal à vivre avec ça. Milan, même si je m'y éclate, c'est quand même une ville qui qui me fait honte parce que je suis de Rome, tu vois. Et donc t'as ce, bon, je suis un peu bête pour ça, mais c'est comme ça. Et donc au bout d'un moment, je me dis, mais tu fais rien, t'es plus content. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu agis pas? Et je me suis dit, il doit me manquer une compétence. Et j'ai tout lâché, j'ai démissionné, hein, j'ai pas demandé de l'argent, etc., pour faire une formation dans l'énergie renouvelable.
Attends, t'as 35 ans.
C'est en 2007, ouais. Donc j'ai 36 ans, je suis directeur du développement ans. Italie d'Alten.
Tu gagnes.
Je suis payé beaucoup, ouais.
Un blé fou. C'est une prison dorée, on peut le dire.
C'est, ouais, moi j'appelle
ça. Tu t'emmerdes
ça,
un peu.
Ouais, le loup et le chien de La Fontaine.
Ok, je l'ai pas.
Ouais, t'as le loup et le chien, et t'as le loup qui crève de faim dans la forêt et qui s'approche et il voit le chien qui est super bien. Je l'ai fait au théâtre en 6e. Et j'étais le loup. Et le chien qui mange super bien, qui est tout gras, tout peureux. Et le chien, le loup lui dit, mais comment tu fais? Et l'autre, tu dis, oh, presque rien. J'accepte 3 caresses du maître et je fais peur à deux souris. Et là, on me nourrit et tout va bien. Ah ouais, mec, c'est cool et tout. Mais t'as quoi autour du cou, là? Oh, rien. Comment ça, rien? Presque rien. C'est-à-dire 3 fois rien. C'est-à-dire un collier. Et là, le loup, il se barre et il va courir dans la forêt. Et oui, c'était un collier doré, ouais, c'était des chaînes dorées. C'était des chaînes dorées, mais qui... Moi, j'ai des chaînes aussi ici.
Bien sûr.
J'ai une boîte, j'ai des responsables, j'ai des enfants, c'est des chaînes et tout. T'as toujours des chaînes. Il faut qu'elles te plaisent. Et celle-là ne me plaisait plus.
Ok. Donc
je démissionne.
En plus, pourquoi démissionner?
Je démissionne, quoi. Je leur dis, je ne veux plus bosser, ouais.
Il faut se casser.
M'emmerder, là.
Ok.
Stop, fini, tac, hop, allez. Ciao. Et je me trouve un master en énergie renouvelable aux mines de Paris, à Sophia Antipolis, et un stage à Aix-en-Provence. Donc retour, rester dans ma zone géographique en tout cas. Et je me retrouve donc à 36 ans avec des étudiants de 23 la plupart. Et je fais ma formation dans l'énergie avec l'ambition de créer une boîte dans le renouvelable.
T'as déjà en tête de monter une boîte?
Oui, c'est
pas donc, d'aller travailler.
Non, l'idée c'est. Tu veux créer une boîte dans le renouvelable, pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il te manque des compétences, tu fais ton master et après tu crées ta boîte.
Parce que tu n'avais jamais monté de boîte jusque-là?
Non, j'avais monté des activités mais jamais de boîte, ce qui est assez différent.
C'est pas pareil.
En réalité, je suis d'accord.
Ok.
Et voilà.
Donc tu te formes?
Donc je me forme, je suis à Antibes avec des jeunes, je me rends compte que j'ai changé. L'exemple c'est, je m'étais dit, je vais prendre une chambre d'étudiant. De toute façon, t'es plus payé. Bon, j'avais gagné bien ma vie, donc j'avais bien économisé. Hein. Et je me dis, mais bon, je vais pas tout gaspiller. Je vais prendre une chambre d'étudiant comme quand j'étais étudiant, là, 9 mètres carrés. Je vais mettre tous mes meubles dans un garde-meubles et puis je vais prendre juste le minimum. Et je débarque avec le minimum dans ma chambre d'étudiant. Le minimum rentrait pas dans la chambre d'étudiant.
Parce que ta femme, pendant ce temps-là, parce que t'étais marié en plus.
Non, à ce moment-là, non, j'étais divorcé. Okay. Je vivais, j'étais en concubinage avec... j'étais en couple.
Ok.
Elle était à Milan à ce moment-là. Et elle m'accompagne justement le premier week-end pour voir cette petite chambre. Elle regarde ça effarée, elle part déprimée. Et j'ai tenu 2 semaines dans la chambre. Après, je me suis loué un appart au bord de la mer à Antibes.
Ouais.
Avec un jardin. voilà.
Et quand même, c'est sympa, tu vois, mais il y a des limites.
Il y a un moment où tu peux plus.
Dans ta vie, t'es là.
Où tu peux plus.
C'est sympa à 20 ans, mais à 35.
Et c'est ça. Et donc, voilà, on était à Antibes. Ensuite, j'ai fait mon stage à Aix. Et j'ai commencé à préparer avec un pote l'idée d'une boîte pour faire de la production solaire. Là où j'étais en stage, ils me disent, écoute, on veut bien te prendre à mi-temps après, comme ça t'as à mi-temps pour faire ton job et ta boîte, et à mi-temps tu bosses là. On va être parents.
En plus, tu fais les deux en même temps.
Elle a déménagé à Rome, mais elle n'aime pas Rome. Et donc on décide de s'installer à Aix dès que possible, voilà, et qu'elle démissionnera, et que moi je prendrai ce job à temps partiel, et que je créerai la boîte, et hop, 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 tu fais des tas de plans, et puis c'est octobre 2008, Lehman Brothers,
le grand crash,
et tes plans tombent tous à l'eau, c'est-à-dire que t'es plus recruté, c'est-à-dire que la boîte tu peux plus la créer parce qu'il n'y a pas d'argent. Et heureusement, ta compagne n'a pas démissionné avant que tu te rendes compte de tout ça. En tous les cas, elle est enceinte, il va falloir faire quelque chose. Et toi, tu habites à Aix, elle habite à Rome, et tu n'as pas de revenus, tu es au chômage. Tu n'as même pas droit au chômage, au départ. Tu n'as pas de plan B, tu n'as rien prévu, quoi. Et mais t'habites à Aix, donc c'est quand même pas mal.
Et il y a du soleil.
Et il y a du soleil. Et non, j'étais pas très inquiet en fait, mais c'était effectivement, tu vois, on te dit t'as pris un risque en quittant tout. Non, j'ai à nouveau pas pris un risque. J'ai juste suivi ce qui m'était nécessaire.
T'avais un peu de sous de côté aussi, j'imagine.
J'avais des sous de côté, bien, ouais, ouais. Mais j'en avais perdu avec le crash. Hein.
Mais ça, j'imagine.
Mais bon, ça repousse après en fait la bourse. C'est juste une question de à quel moment t'as besoin d'argent. Et puis donc là, bah, ça a été des années. Donc, ouais, on finit par décider de s'installer à Paris parce que moi je voulais Rome, elle voulait Milan. Et le compromis, ça a été Paris. Parce que Aix, on se disait, on n'arrivera pas à trouver de job à deux, tu vois, on ne peut pas se permettre de faire ça. J'ai créé une vague boîte avec un pote qui est maintenant plus mon pote, comme ça arrive souvent dans ces cas-là. Parce que la boîte, on s'était juste mis ensemble pour faire un truc, mais en fait, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. J'ai eu une chance folle. J'ai postulé au poste de vice-président développement durable de Areva et je n'ai pas été pris. Je suis arrivé deuxième.
Ouf. Parce que ça t'a incité de ce fait-là à te lancer ?
Non, parce que si je l'avais eu, ma vie aurait été différente. Mais parce que Areva, à l'époque, c'était Anne Lauvergeon star. C'était avant Fukushima. Ouais. C'était un super poste, mais j'aurais fini dans une tour à la Défense, en fait. Et là, je suis resté dans le vide à essayer de trouver quelque chose. Et voilà. Après, donc on se retrouve à Paris. On concubinage pour la première fois avec elle, enceinte. Ah, oui. Elle ne parle pas français. Elle doit accoucher. Je n'ai pas de job. Elle est en congé maternité sous contrat italien. On a un peu additionné tous les trucs. Elle n'a jamais vu mes parents, je n'ai jamais vu les siens. Mais bon, écoute, ça a été dur. On s'en est sorti. Et avec en plus un bébé qui pleurait, je sais pas si tu as eu des bébés qui pleurent, mais nous, on en avait un avec la première, qui est un ange, mais qui avait, comment ils appellent ça, des
reflux.
Ouais, enfin, ouais, mais ils donnent un autre nom qui veut dire qu'en fait, ils savent pas ce que c'est, mais j'ai mis 6 mois à comprendre ça. Ils te disent, ouais, je sais plus quel nom ils utilisent, les médecins, mais donc en vrai, ça veut dire tais-toi et attends que ça passe, quoi. Et donc, mais en tous les cas, oui, elle souffrait, et donc elle pleurait tout le temps, toutes les 45 minutes, quoi. Et manque de sommeil, tous les futurs parents, on vous l'a dit et vous ne savez pas ce que c'est.
Non.
Vous ne savez pas ce que c'est. Et quand tout le monde est fatigué et qu'il faut s'énerver et qu'il y a un bébé, bah, tu t'énerves contre l'adulte qui est à côté, même s'il n'est pas responsable. Mais t'as mis 7 ou 6 doses de lait ! Je sais pas, mais tu vois pas qu'elle pleure ! Des trucs absurdes. Ouais. Tous tes principes tombent en 2 semaines. Il y a un moment, faut réagir, tu vois. Bon, c'est un autre sujet, je pense. Et donc, c'est quand même rigolo.
On fera un épisode ensemble si tu veux, d'histoire de Daron.
Ouais, mais je veux bien ça parce que voilà, c'était assez intéressant. Mais donc on avait mis la barre assez haute et on a eu de la chance, on l'a passé. Et on en est vraiment très heureux toujours. Mais donc je me retrouve là, tu vois, on arrive en décembre 2009 là. J'ai pas de job là depuis 1 an et demi, il se passe rien. Et puis un ancien prospect romain. Donc quelqu'un avec qui j'avais eu des contacts professionnels, avec qui j'avais essayé de vendre quelque chose sans jamais y arriver, m'appelle de Telespazio, une société donc qui bosse dans les satellites, et qui me dit on a acheté une filiale à Paris, elle est en train de couler, est-ce que tu veux pas la reprendre ? Enfin, devenir le DG quoi. Ah, come no. Certo, grazie Giancarlo. Et donc, bing, je passe mes entretiens. Ça se passe pas aussi bien que je pensais, mais je me bats et je chope le job. Et donc, je me retrouve à nouveau dans les télécoms. Mais il y a un moment, t'as pas le choix, tu vois. Il faut recommencer à bosser, il faut recommencer à faire rentrer de l'argent. T'es devenu papa, voilà. Et donc, et puis c'était un beau job quand même. Et donc, je deviens directeur de cette filiale. Enfin, qui était, oui, c'est ça, une filiale que j'ai intégrée dans la boîte. Ça me donnait quand même l'occasion d'aller toutes les 2 semaines à Rome, puisque mon chef était à Rome. Donc, à part pour le bilan carbone, le reste, c'était pas mal. Mmh. Je fais ça pendant 2 ans et demi. Je redresse l'activité, je remets tout le monde dans le bon axe, puis je m'ennuie.
Bah oui, parce que t'as toujours pas avancé sur ton projet de boîte.
Et j'ai toujours pas avancé ni sur mon projet de boîte, ni sur l'énergie. Et donc, je crie à qui veut bien l'entendre, je veux faire de l'énergie. Et là, j'ai des anciens contacts belges qui m'appellent et qui me disent, on connaît des gens en Belgique qui ont un fournisseur d'énergie verte. Ils ont créé une filiale en France. Elle est à l'arrêt. Est-ce que tu veux pas la reprendre? Et alors ça s'est pas fait aussi simplement que ça, mais il y a eu des épisodes, mais finalement ils me recrutent. Et donc en mars 2013, je prends la direction de l'Empiris France, qui était un fournisseur alternatif, qui avait 5000 compteurs après 3 ans. Et ils me disent, il faut que tu en fasses 100 000 en 3 ans. Et ils rigolent, hein, ils se disent que voilà.
Ça n'arrivera jamais.
Ça n'arrivera jamais. Là, je fais assez vite, je vois où sont les problèmes. Un certain nombre de problèmes étaient sur la compétence métier et les outils. Je rencontre quelqu'un qui me semble extraordinaire en entretien, Jonathan Martelly, qui est désormais mon associé. Et je le recrute. Il est arrivé le 1er avril. Donc, tu vois, 3 semaines après, il était là. Et à nous deux, on a fait exploser l'Empiris France. On est passé de 5 000 à 150 000 compteurs en 2 ans. Voilà. Ouais, non, on s'est bien marré. On a retrouvé l'équilibre financier aussi. Et puis en même temps, voilà, moi j'ai mon deuxième enfant, ma vie se stabilise, je suis dans le métier que je veux. Il y a plus que la ville, tu vois, qui va pas bien à ce moment-là. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on finit par se lasser avec Jonathan. C'est Jonathan, il est un peu comme moi. Et voilà. Et puis les actionnaires ne veulent plus aller dans la même direction que celle qui était la leur et la nôtre au départ. On a compris plus tard, ils étaient en train de vendre la boîte. Donc évidemment, ton optique devient complètement différente. Et donc, on finit par s'agacer et on se dit, mais on peut le faire tout seul en fait. Et on démissionne. Tchac, tchac.
YOLO.
C'était qu'en juillet 2016. Et en septembre 2016, on se fout dans ma chambre de bonne à côté d'ici et on commence Équateur.
Comme ça?
Comme ça, avec de l'argent quand même, parce qu'on avait pu mettre... Non, septembre 2015, pardon. Oui. Parce qu'on avait mis de l'argent de côté tous les deux, donc on peut démarrer. Et on démarre, et voilà, et l'aventure maintenant... comme je t'ai dit, on a annoncé ce matin qu'on avait un projet d'introduction en bourse. La société a facturé... on a fait un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2020, mais ça veut dire qu'on a facturé, je crois, 200 millions d'euros, 250 millions d'euros avec les taxes et avec les... Enfin, t'es une boîte, on est presque 100. J'ai toujours pas bien compris.
Ouais.
J'ai toujours pas bien compris.
Si, t'as compris. Non ? Tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est une formule toute faite. Du gros travail.
Ah oui, gros travail. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais j'ai arrêté de te parler de gros travail à partir d'Altran, mais je peux te confirmer que gros travail.
Gros travail, quoi qu'il arrive.
Mais gros travail avec plaisir. Gros travail. En fait, Ah oui, il y a un truc. Tiens, tu m'y fais penser maintenant. Quand j'ai commencé Équateur, on ne s'est pas payé pendant 2 ans et demi. Et on a mis toutes nos économies dedans. Et avant, en particulier du temps de Bruxelles, Rome, Milan, mais même à la fin un peu Téléspatieux, même à la fin l'Empiris. Il y avait quand même la rat race. Je ne sais pas si tu connais la rat race.
Oui, tu es dans la roue et tu cours.
Ouais, tu es dans le labyrinthe et tu dois chercher le petit morceau de fromage. Et tu dois te battre contre les autres rats. C'est une chanson de Bob Marley. Et rat race. Et en fait, ou bien la nouvelle chanson, là, on en avait assez, on en voulait encore. Et tu te retrouves dans un monde où, quel que soit ton salaire, tu es insatisfait. Ouais. Et c'était ça, hein, j'étais... Quel que soit mon salaire, j'étais insatisfait. Et chez Équateur, on ne s'est pas payé pendant 2 ans et demi et j'en avais rien à faire. Rien à faire. Ce n'était plus un sujet pour moi. Et donc, c'est ça que c'est pour ça que je vais en parler par rapport au travail. C'est-à-dire que je travaillais autant, probablement plus même qu'avant, pour beaucoup, beaucoup moins. Et avec tellement de plaisir que ce n'est pas un travail. Enfin, c'est... Il y a du stress, bien sûr, beaucoup, mais je referai 20 fois, même si tout s'effondre, je referai 20 fois.
Qu'est-ce qui a changé, entre-temps ?
Dans moi ou dans le monde ?
Dans toi ?
En moi, entre-temps ? Ben non, mais je suis arrivé là où je voulais. J'ai créé ma boîte dans le renouvelable. Et donc, tout ce que j'ai en tête, je le mets en œuvre, et c'est moi qui en assume les conséquences, et c'est à moi de corriger le tir... Et enfin, à Jonathan et à moi, puis maintenant à toute l'équipe, les actionnaires, etc. Mais donc, une idée qui avait germé en 2005, non, oui, c'est ça, oui, en c'est 2005, ça. Et qui, et que j'ai gardé 10 ans en moi, et j'ai enfin réussi. Et il y a un truc que je voulais faire en troisième et que j'ai toujours pas fait, j'ai toujours envie de le faire. Tu vois, une maquette énorme de dragon. J'oublie jamais mes envies.
Ouais.
C'est probablement un problème qui me met beaucoup de stress. Mais et donc je j'oublie et donc je veux toujours les faire. Et là je le faisais quoi.
Et c'était top, et c'est un plaisir, et c'est un plaisir. Et tu recrutes des gens avec qui tu as envie de bosser, et tu enfin voilà, une liberté, probablement la liberté. La liberté d'aller là où tu penses ce qui est juste.
C'est quoi la différence entre reprendre une boîte, enfin une filiale comme tu l'as fait juste avant, et de créer ton propre projet?
Alors déjà l'autorité. Je suis pas un grand fan de l'autorité. Quand tu reprends une filiale, t'as une zone où c'est ta responsabilité, et puis tu fais du reporting, et puis tu te retrouves des fois avec des remarques en disant mais il faut faire ça, et on te dit non, et tu dis mais je comprends pas, c'est pourtant mieux pour la boîte, et on te répond mais je vais pas te dire oui tout le temps Julien. Tu vois, tu te retrouves avec des arguments parfois politiques internes que tu ne comprends pas et qui te paraissent absurdes, et pour quelqu'un de cartésien comme moi c'est difficile à vivre, à accepter, et puis t'as pas... et donc, quand tu crées le truc, tu n'as plus ce regard-là. Par contre, tu as un regard beaucoup plus aigu, c'est les investisseurs, c'est les actionnaires, c'est les clients. Mais ce n'est pas pareil. C'est des gens à qui tu dois quelque chose parce qu'ils ils t'ont fait confiance. C'est pas comme un salaire. Ces gens-là ont décidé d'investir chez toi. Ces gens-là ont décidé de te faire confiance et d'acheter leur énergie renouvelable chez toi. Ces gens-là ont décidé de quitter leur job pour bosser pour toi. Waouh. Et donc tu leur dois un service et tu n'obéis pas à un ordre. Et pour moi, psychologiquement, c'est, je pense, beaucoup plus agréable de devoir un service à quelqu'un et de le rendre que de suivre un avis, même si à la fin ce serait le même avis, le même service. Je sais pas. Écoute, est-ce que tu veux qu'on remonte au collège? Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Si tu veux remonter. Non, mais je ne sais pas.
C'est une question de personnalité en tout cas. Ouais.
Comment ça se passe de... Parce que, bon, comme je te disais, j'ai un peu parlé à tes équipes auparavant et j'ai l'impression que vous avez mis en place une culture de boîte comment dire, à la cool. Alors c'est pas humaine, je vais plutôt dire.
Alors, ben, je suis ravi qu'il t'ait dit ça. À la cool, je serais surpris qu'il t'ait dit ça.
Non, en tout cas, une culture de boîte humaine alors je crois exigeante, parce que de toute façon tu n'arrives pas à ces résultats-là avec en si peu de temps. Mais forcément, il y a un moment donné où j'ai un peu l'impression que vous avez décidé de ne pas sacrifier l'humain au détriment du...
En fait, c'est une question de respect des gens. Donc cool, je ne pense pas. Les gens bossent ici et tout le monde pédale.
Tu peux avoir une ambiance cool en taffant.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de gens confondent cool et finalement activité faible. Et si tu es d'accord pour dire cool avec une forte activité, oui. Et les gens qui sont ici et qui s'y trouvent bien sont des gens qui ont plaisir à travailler parce qu'ils font un job qu'ils aiment bien, parce qu'ils aiment bien l'effort de bosser. Et derrière, après, oui, on n'est pas dans une ambiance politique. Il n'y a pas de peau de banane, il n'y a pas de job protection. Et c'est d'autant plus facile, ça, dans une boîte en croissance. Quand tu as beaucoup de travail, si quelqu'un d'autre fait le boulot qui t'était dévoué, attribué, tu t'en fous en fait, parce que de toute façon, tu as tellement de trucs à faire. Donc ça simplifie beaucoup les relations. Et on est très management participatif avec Jonathan, c'est-à-dire qu'on laisse les gens décider. Et c'est mieux et moins bien. Hein. C'est-à-dire que, comme on explique en entretien, si tu viens me voir pour dire qu'il n'y a pas d'eau chaude, en fait, tu ne m'intéresses pas et tu peux partir. Quoi. Ce qu'il faut, c'est que tu viennes voir en me disant il n'y a pas d'eau chaude et voilà ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait de l'eau chaude. Et par contre, là, on va te laisser faire. Si c'est intelligent, on va te laisser faire. Et tous les... et alors, comme on est une société engagée, on attire des profils engagés qui nous obligent à leur tour et donc ça crée un cercle vertueux. Tu vois, on nous dit il faudrait recycler le marc de café. Ok, ça ne m'intéresse pas. Non, on me dit j'ai trouvé une super boîte qui recycle le marc de café, en échange on aura des champignons, ça coûte tant par mois, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis avec Jonathan on signe, quand c'est bien fait, pouf,
Tu vois, et ça crée toute une ambiance positive qui nous fait... Tu ne peux pas tout décider, tu ne peux pas tout savoir. Tu vois, moi, je ne fais pas de vélo parce que j'habite à 100 mètres d'ici. Ce n'est pas un hasard non plus, mais bon, voilà.
C'est un des avantages.
En plus, avec deux roues, tu tombes. Tu vois, moi, je suis resté ingénieur pour ça. Deux roues, ça ne suffit pas, il en faut trois. Et donc, ils sont venus me voir en me disant il faut un référent vélo, il faut un truc, etc. etc., etc. Donc, tout ça, c'est l'esprit d'Équateur. Après, il y a un deuxième truc qu'on explique, c'est qu'on est très exigeant, effectivement, et qu'on vise la perfection avec Jonathan. Et la perfection est impossible à obtenir. Et on apprend aux perfectionnistes à chercher toujours la perfection. Il ne faut jamais rater cet objectif. Enfin, il ne faut jamais oublier cet objectif. Et à vivre avec l'imperfection de la réalisation et qu'il faut continuer à avancer. Et ça, c'est très dur hein, pour tout le monde, même pour moi, de se dire je veux ça, j'en suis là, mais il faut que j'aille chercher la suite parce que tant pis, je n'ai pas le temps de finir, quoi. Et comme on veut des perfectionnistes, que nous, on est perfectionnistes et que... Donc tout ça, c'est... Et après, effectivement, t'essaies de modérer, de repérer. On n'est pas parfait. Hein. Le Covid affecte beaucoup les gens et crée des... Sur des mails, t'as des réactions que tu ne comprends pas, que tu n'avais pas anticipées. Il y a des gens qui partent, t'avais pas vu du tout qu'ils étaient mal. On est très dans le management de proximité et quand on voit plus les gens, ça marche moins bien. Tant mieux si les équipes trouvent que c'est à la cool. Moi, je trouve que le Covid nous a coûté pas mal quand même.
Dans quel sens ? Enfin, comme
bah, les gens se voient plus, ouais. tu les vois pas. D'abord, on a beaucoup de gens qui sont jeunes quand tu vis dans 18 mètres carrés, mais tu deviens fou. T'as eu différentes étapes. Les premiers confinements, ceux qui devenaient fous, c'était les couples avec des jeunes enfants. Ah, les enfants de 3-4 ans, tu les voyais sur les vidéos là, ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus, ça courait partout, ils essayaient de s'organiser, c'était impossible. C'était triste à voir, nous nos enfants étaient plus grands, déjà c'était un peu plus simple. Et sauf un entretien que je passe et puis ma fille qui arrive en pleurant derrière, j'ai dit excusez-moi j'ai une urgence.
Il faut être souple, de toute façon, 2020.
Et maintenant, c'est plus ceux qui vivent, les jeunes couples ou les célibataires qui vivent dans des petits appartements parisiens, qui sont des appartements sombres, étriqués. S'il y a des auditeurs qui n'ont jamais vécu à Paris, ce que j'imagine, ne venez pas d'abord. c'est trop cher.
C'est très cher. Et
c'est sombre, et c'est gris, et c'est humide, et tout est toujours mouillé. et sale. Mais vous n'avez
pas mis en place une politique de télétravail, de dire...
Si tu mets, on en fait des trucs, on fait des apéros quiz, on a fait des conférences, on a cherché à trouver des humoristes à qui on pourrait demander de faire une blague par jour, par mois, par etc. Des conférences sur comment se sentir bien, le zen. Il y a un truc, ici c'était souvent... les gens le soir sont souvent allés boire des bières entre eux et ça change la vie. Et toi, tu y allais de temps en temps, enfin moi ou Jonathan, tu vois, et là aussi tu sens l'humeur. Et donc tu peux te dire, oh là, il y a quelqu'un qui va pas bien, je vais lui parler avant qu'il soit trop tard. Et tout ça s'est perdu. Et quand la boîte fera 1000 personnes, de toute façon, on ne l'aura plus, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Mais on ne l'a pas encore trouvée, et notre management, aujourd'hui, montre ses limites dans une situation de pandémie, malheureusement, et je le regrette pour toutes celles et ceux qui en souffrent. Je sais bien qu'on n'est pas les seuls, et c'est particulièrement difficile avec, je trouve, notre population jeune. Tu vois, moi, quand je rentre, j'ai mes enfants, qui maintenant, donc, elles ont 9 et 11 ans, elles vont me parler de leur histoire et je change de monde. Quand ceux qui vivent à deux ou tout seuls ont fini leur journée, ils restent dans le même monde. C'est dur, hein ?
Ouais, je crois. De toute façon, pour moi, la santé mentale, ça va être un truc. Hein. En sortie de crise, ça va être quelque chose, quoi.
Enfin, nous, on est dedans et je sais que de temps en temps, ils sont restés boire des bières au bureau. Hein.
Chut.
Voilà.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire, c'est la vie, quoi. Mmh, mmh. Ça commence à devenir long un peu là, pour tout le monde. Tu voulais J'aurais aimé te parler de paternité parce que je crois que je t'ai entendu à quelques reprises essayer de lancer le sujet et que les journalistes ne rebondissent pas. Et c'est pas un sujet qui intéresse grand monde, les pères. Et moi, bon, tu sais que moi, ça m'intéresse grandement. J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe, toi, ta vie de boss d'une boîte de 100 personnes. Tu me racontais là, hors micro, que t'es investi dans ta paternité. Et justement, de père qui a envie de vivre des moments avec ses enfants, quoi.
Ben oui, un jour, j'ai entendu une interview de Xavier Niel, qui disait, pour créer une boîte, il faut que tu sois prêt à bosser 24 sur 24, à dormir à côté de ton ordinateur. Ben moi, non. Donc, il y a d'autres solutions. Alors, je n'ai pas le même succès que Xavier Niel, et ceci explique peut-être cela, mais en tous les cas, j'ai une simplicité qui est que je suis à côté, donc tu as chez moi, à l'école, ici, 4 minutes, à pied. Ma femme a un super job, elle fait une carrière de feu, et donc c'est plutôt à moi de m'en occuper, en fait. Et j'ai cette souplesse-là, c'est-à-dire que tu as l'envie, mais j'ai en plus la souplesse. Je pense que dans une boîte classique, me voir partir d'une réunion en disant « Désolé, là, il est 7h30, il y a la nounou qui s'en va, j'y vais », et de dire « Si vous voulez rebosser avec moi, vous attendez 9h, parce que là, c'est l'heure du repas, du bain et de l'histoire », je peux le dire, parce que personne ici, je suis cofondateur.
C'est toi le boss,
quoi, voilà. Mais je ne suis pas du tout sûr que je pourrais le dire de la même manière dans d'autres boîtes. En tous les cas, je le ferai, mais je le cacherai.
Ok.
Et c'est ça qui me surprend. Et je pense qu'il y a un sujet, c'est-à-dire est-ce que l'exemple que je te donnais tout à l'heure, j'ai remarqué, c'était que pendant la Coupe du Monde, si je faisais la fête parce que la France avait joué la veille et que le lendemain, je disais à la réunion, excusez-moi, je ne suis pas très vif avec des fournisseurs et tout parce qu'il y avait match de foot hier. Oh, 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 vraiment, le mec, il est cool, quel start-upper moderne et tout. Et je ne pouvais pas dire ça en me disant, excusez-moi, hier, j'ai ma fille qui a pleuré toute la nuit parce qu'elle avait une otite et donc je suis fatigué. Et ça, peut-être pas tous, mais la majorité n'aurait pas compris. En tous les cas, ça n'aurait pas fait la même blague oh, 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 qu'il est cool ce start-upper. Et je ne comprends pas trop pourquoi. Et moi, j'éprouve énormément de plaisir à passer du temps avec mes enfants, à leur faire leurs devoirs. Alors, elles sont encore jeunes, donc elles aiment beaucoup leur papa. Ça finira par passer. Mmh. Au début, donc, je t'ai raconté tout le début, l'arrivée quand je suis devenu père, quand ma fille est née, qu'elle a fait de moi un père, comme je lui dis. Donc on s'était mis dans une situation assez complexe en couple et donc je m'en occupais beaucoup de ma fille et surtout que en Italie c'est plutôt les grands-parents qui s'occupent des enfants, c'est un saut de génération, ouais. Et donc il y a une grosse bataille entre ma belle-mère et moi qui a débarqué d'Italie du Sud à Paris et qui ne comprenait pas que je m'occupe et moi je ne comprenais pas qu'elle s'en occupe.
Ah, oui,
et c'était ma compagne qui était au milieu, donc ça compliquait beaucoup le truc, tu vois. Et donc peut-être ça m'a fait encore plus je m'en occupe. Et ce qui fait que ce qui m'a fait plaisir, c'est le résultat, c'est 2 ans après, à la maternité, pour la naissance de la deuxième, et je passe la première nuit à la maternité et donc elle se réveille, il faut la changer et donc je me lève, je la prends, je vais dans la salle de change, je la nettoie, je la change, je la remets et tout. Et j'étais à moitié endormi, évidemment. Et en la posant, en la remettant dans son berceau, en fermant tout, là, je me retourne. Et en fait, il y avait une infirmière qui m'avait suivi tout le temps. J'avais pas fait gaffe. Et qui a dit, on va vous recruter. Et donc, en fait, elle vérifiait tout ce que je faisais. Et j'avais eu le tampon hôpital yes. de la Pitié-Salpêtrière. Tu pourrais venir faire nurse à la maternité. Et les gens qui disent, tant qu'ils parlent pas, tu peux pas créer. Mais même quand ils viennent de naître, changer une couche, tu crées une relation qui est énorme, énorme. C'est incroyable. Et si tu veux, on parle de ça. Mais j'aimais tellement ma première fille que je me demandais comment il y aurait de la place pour la deuxième.
Ah, oui.
Et incroyable, il y a de la place pour la deuxième autant que pour la première.
L'amour se multiplie, comme on dit.
Oui, on le dit, mais tu y crois
pas.
Tu peux
pas le... Il faut le vivre.
Ouais, il faut le vivre. Alors en plus, la deuxième, elle a été plus avec sa mère au début, qui elle a pris plus le temps, là, elle était moins dans le stress, il n'y avait plus toute cette situation. Et donc, je l'ai laissé, donc je l'ai recréé le lien, mais un peu plus tard, plutôt vers 3 mois. Et il y a une première vidéo où, tu vois, je joue avec elle. Et là, bing, et maintenant j'ai les deux. Enfin, c'est...
et tu les vois et tu t'angoisses tout le temps. Enfin, moi, je m'angoisse tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer demain? On a eu le Covid, là. Oh là là, les idées noires. Les idées noires du Covid. Tu sais, on t'a tellement dit sur BFM que t'allais mourir que la première nuit, t'apprends que tu l'as, même si toi, tu te sens bien, tu réfléchis à ce que tu vas écrire dans la lettre qu'elles devront lire quand elles ont 18 ans. Et tu passes ta nuit à faire ça et tu penses qu'à ça. Et voilà. Et écoute, après, bon, faire les sorties en école primaire, c'est un gros avantage d'être start-upper pour ça.
Bah, c'est bizarre que tu dises ça parce que normalement... En fait, tu veux simplement dire que t'es ton propre patron.
Ouais,
et que tu décides du temps que tu vas allouer à ton job et à tes enfants.
Et du moment. C'est-à-dire, je peux partir l'après-midi et puis tant pis, je bosserai le soir. Et voilà. Et mes filles viennent ici souvent, dans les bureaux, parce que chez nous, c'est petit. Et donc là, je décris, donc on voit la borne d'arcade, oui. On voit le casque de Viking, on voit... donc il y a pas mal d'autres jouets partout. Des petites marionnettes un peu partout et mes filles viennent là pour jouer à la borne d'arcade et écrire sur les tableaux et qui me disent mais en fait papa il travaille pas, il y a trop de jouets dans son bureau pour qu'il travaille pour de vrai, c'est pas possible. Et donc elles me demandent même de venir le week-end, ce qui ça maintenant m'agace parce que moi le week-end j'ai pas envie d'être là.
et en fait qu'est-ce que t'as envie de dire aux jeunes patrons, tu vois, qui se disent ok je veux devenir père, mais d'un autre côté, j'ai peur que ça vienne plomber mon activité de boîte d'une manière ou d'une autre.
Bah non. N'ayez pas peur. Non, non. Je pense que c'est même beaucoup plus simple si vous avez envie d'être proche de vos enfants et de passer le temps. Enfin, moi, par exemple, c'est moi qui cuisine à la maison aussi. Donc, voilà. Et pendant le Covid, les enfants doivent manger à midi. Et donc, tu dois cuisiner. Et donc, tu as une réunion. Et eh ben maintenant, de toute façon, là, pendant le Covid, je ne me gênais pas. Je disais, excusez-moi, vous allez entendre du bruit, je dois couper les oignons et préparer les pâtes. Depuis le Covid, les gens le comprennent, ils l'acceptent d'ailleurs beaucoup plus. Je pense qu'avant, je n'aurais pas pu le faire. Mais je pense que, tu vois, je ne fais plus d'activité, moi. Je ne fais plus de théâtre depuis la Belgique. Je ne fais plus de sport, à mon grand regret. Et avec le Covid, tu ne peux même plus aller au cinéma. Mes enfants sont mon autre vie et sont tout ce que quand je joue à puissance 4, c'est mon activité à moi. Et même si je leur dis que je vais les manger, je perds une fois sur deux. Et
de toute façon, ce jeu, c'est tout ou rien.
Et donc voilà. Et maintenant, quand elles viennent et qu'elles me disent tac, allez, on joue à ça. Enfin voilà, c'est on parle d'équilibre. Enfin, pour bien travailler, il faut quand même avoir une soupape à un moment ou à un autre. Et si vous voulez un utilitaire dans les enfants, ça sert de soupape. Au-delà de l'amour, ça sert de soupape.
Intéressant. Comment tu as fait pour faire refléter dans la vie de la boîte, justement, cette joie de la paternité? Tu disais que vous aviez mis en place le congé paternité, c'est ça?
Oui, alors en fait, bah, Jonathan, il est comme moi. Lui, il a deux garçons qui ont à peu près le même âge que mes enfants. Voilà, quand il fait un truc en Lego avec ses fils, il m'envoie les photos, je suis trop jaloux.
tu peux faire des Lego avec tes filles aussi, tu sais.
Oui, je sais. Et d'ailleurs, j'ai eu pour mes 50 ans, la société m'a offert le Faucon Millennium en Lego qu'on a fait ensemble. Mais il y a moins de place chez moi que chez lui. Et donc, c'est la limite des Lego. Et puis, ils sont un peu plus Playmobil, mais bon. Mmh. Et donc, rien. On n'a pas cherché, tu vois. Le congé paternité, c'est venu de l'intérieur. C'est des employés qui ont dit « il faudrait ». Et je pense simplement qu'ils n'ont eu aucun scrupule à le faire parce qu'ils savent qu'on est très attachés à nos enfants. Et voilà. Alors, tu as en plus le gros avantage de patron, c'est que les enfants viennent au bureau. Les autres n'osent pas trop le faire. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Puis évidemment, si c'était trop, ça fatiguerait. Mais tu as un problème je sais pas, de nounou ou quoi, tu les mets là. Et donc, ils nous ont vus avec nos enfants. Ils nous ont vus avec nos enfants. Et donc, tout ça, je pense, fait que... bon, voilà, on a un bébé qui est arrivé il y a le 10 février. Ava, bienvenue Ava. On a un autre bébé qui va arriver dans 6 mois où justement, c'est le responsable B2B qui va être papa.
Et je lui dis, tu sais que t'as droit au congé paternité et tout. Il me dit, ah non, je savais pas. Je dis, oui, on a fait cette règle et tout. Il me regarde, il dit, tu regrettes maintenant, hein?
Et alors?
Et je lui dis, ouais, bon, écoute, faut s'adapter, c'est la vie. Non, mais c'est très bien. Deux semaines, c'est rien. Enfin, c'est à 10 jours.
Ouais, 11 jours.
Tu te rends compte? Voilà. Mais même, en fait, je croyais qu'on avait dit oui à 4 mois.
4 semaines.
Et en fait, on a dit oui à 4 semaines. Parce que moi, j'ai cru qu'on avait dit oui à 4 mois. Et j'ai dit au responsable B2B, mais t'as droit à 4 mois. Et alors là, ils ont tous dit, ah, mais génial, génial. Et j'ai dit, non, c'est, en fait, je me suis trompé. On vient de m'expliquer que je me suis trompé. Et là, ils me disent, mais si tu dis oui à 4 mois, mais on va être la première boîte en France à faire ça. Je dis, d'accord, mais bon, là, il faut quand même dire qui paye. Toi.
Ouais.
Voilà. Mais et après, on me dit, bah, 2 mois. Alors, 2 mois, non. Un mois, c'est des grandes vacances. Tu peux vivre sans. 4 mois, tu peux trouver la personne qui va remplacer pendant la durée. 2 mois, c'est une mauvaise durée. Pour côté boîte. Tu vois.
Ouais, je comprends.
Voilà. Mais donc, des bébés arrivent et on est ravis.
Est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais parler avec moi?
La transition énergétique.
Ouais.
Il faut sauver le monde. Je suis très content parce que la prise de conscience maintenant est générale. C'était pas le cas il y a 3 ans. Et donc tout le monde essaie de faire des efforts. Et je pense que le travail d'Équateur maintenant, c'est d'essayer d'aider les gens à faire les bons efforts. Les gens ont l'impression que quand ils vont chez Burger, ils font plus d'efforts que quand ils changent de fournisseur d'énergie. Donc non, commencez par changer de fournisseur d'énergie. Et c'est même pas un effort. Alors vous pouvez prendre Équateur ou d'autres. On est beaucoup de fournisseurs renouvelables. Il y a des choses que vous pouvez faire simplement et qui ont un gros impact. Donc changer l'énergie que vous consommez, c'est quand même l'énergie de la maison, c'est 30, 60, 6 x 5, c'est 20 à 30% de l'énergie que vous consommez dans l'année. Et avoir juste conscience, on n'est pas obligé d'être ayatollah. Chez Équateur, on n'est pas des militants. Moi, j'ai des employés qui ont arrêté de prendre l'avion et qui ne vont plus en vacances qu'à destination de train. Donc là, on est sur un niveau d'engagement élevé. Par contre, en avoir conscience et se dire, tiens, là, oui, je peux quand même prendre le train, c'est mieux que la voiture ou que l'avion. Je vais peut-être pas partir 3 fois de suite aux Maldives cette année. Donc, commencer à se poser ces questions-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 4x4 Alors, ça suffira pas. Par contre, ça suffira à faire comprendre à l'ensemble de la population qu'il faut faire des efforts et à faire accepter les changements. Parce que la grosse difficulté, c'est que tout le monde n'a pas accepté tous les changements. Hein, on dit oui, les politiques ne se bougent pas, mais les politiques, ils font ce pourquoi on les a élus. Et quand il y a eu la taxe carbone, il y a eu d'abord les bonnets rouges, puis les gilets jaunes. Donc les gens ne sont pas d'accord. Donc tu peux te mettre au milieu du rond-point et dire il faut une taxe carbone. En fait, la majorité des Français ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, il y a du prosélytisme à faire. Et il ne faut pas oublier aussi, en tous les cas, tu sais, à la fin, justifie les moyens. Et donc, vas-y, je vais même mettre à taguer, à casser, parce que c'est des voleurs. Et moi, ma fin, en fait, ce n'est pas la transition énergétique. Ce que je veux éviter, c'est Mad Max 2.
Oui.
Et ce que je ne veux pas, c'est que mes enfants vivent dans la guerre civile. Ou dans la guerre en général. La chance qu'on a eue de ne pas connaître de guerre.
Bah pour l'instant, ouais.
Et pour l'instant, et nous, ben moi, à mon âge, il y a peu de chances que... Enfin, il me restera peu de vie. Si je meurs, je mourrai, tu vois. Mais,
Non, mais c'est tes enfants qui
seront
dedans.
Mais mes enfants, c'est atroce. Ils seront dedans. Et les conséquences du changement climatique mènent, s'ils ne sont pas contrôlés, direct à la guerre. Et donc, si, pour éviter cette guerre civile, t'en crées une tout de suite... Et je trouve qu'en fait, non, c'est pas l'idée, tu vois. On dit, ouais, je vais me battre contre ceux qui sont pas d'accord avec moi. Non, non. Et il faut faire du prosélytisme. Je ne vois que ça comme solution. Et oui, on n'a pas le temps. Ben ouais, on n'a pas le temps. Mais si on se bat tout de suite pour pas se battre demain, le problème n'est pas résolu, quoi. Et donc, voilà. Et puis après, il faut avoir foi en l'homme et tout ça. La planète, elle, on sauve pas la planète, en fait. Hein.
Non.
La planète, il y aura d'autres animaux dedans. Elle ira bien. C'est juste l'espèce humaine et personnellement, c'est juste éviter la souffrance des gens que j'aime. On a une chance d'être dans un pays qui risque d'être un peu protégé, mais bon, si on vit avec un mur tout autour de la France, je ne sais pas si on peut être plus heureux qu'avant, autant heureux qu'aujourd'hui. Et même, on voit, enfin, tu sais, les printemps arabes, la Syrie, tout ça, c'est les premières conséquences du changement climatique. Et ça a été très mal géré ensuite. Et donc, moi, changer de fournisseur d'énergie, évidemment. Et puis, à titre perso, moi, j'ai fait un truc, c'est que j'ai décidé d'aller plus loin que juste couper mon robinet. et faites-le aussi. Voilà, allez aussi loin que vous pouvez. Moi, je peux pas faire mieux. Hein. Nicolas Hulot a fait mieux que moi, tu vois. Est parfait. Moi, j'ai pas, je suis au max de ce que je suis capable de faire. Et en tous les cas, je me dis, ben voilà, j'y vais à fond. Je fais toute mon activité qui va dans cette direction. Et c'est pas anti-business. Tu peux tout à fait. Si ton business est gagne de l'argent en promouvant tes valeurs, eh ben t'as fait un truc positif. Donc y a beaucoup de gens qui sont comme ça et ça fait plaisir et il faut qu'il y en ait de plus en plus.
Merci Julien.
Mais je t'en prie.
Franchement, c'était super.
Eh ben, tant mieux.
Quelle histoire.
C'est la mienne, quoi. C'est une suite de hasard qui m'a amené là.
Ben, je vous mettrai toutes les infos pour si vous voulez vous renseigner sur Équateur dans les notes du podcast. Tu sais, ça se passe comme ça dans les notes.
Très bien.
Merci encore. À toi.
Je t'en prie. Salut. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.